auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Patara, le débat politique sur 100.9 FM. Nous réalisons cette émission depuis Obo grâce à la collaboration de Radio Ndekeluka et la radio communautaire Zereda. Aujourd'hui, nous allons parler du Ombomou et ses défis. Le Ombomou, malgré ses potentiels économiques, à l'extrême est de la République centrafricaine, est isolé. D'aucuns ont le sentiment d'être abandonnés, d'autres nourrissent qu'un jour l'État fera quelque chose pour le relèvement de la région. L'insécurité galopante entretenue d'un côté par les hommes de la LRA depuis mars 2008, puis les Séléka et enfin les Atibalaka. Ces conflits récurrents ont mis à terre la cohésion sociale de la région. Mais la cherté de la vie qui ne rime pas avec le faible pouvoir d'achat de la population, le sous-investissement de l'État dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé, la justice, l'absence des routes et une économie peu ou du moins non diversifiée. Dans ce tableau sombre qui consacre le désespoir, le rêve est aussi permis. Les groupes armés qui prennent en otage la population et ses activités annoncent leur volonté de déposer les armes. Si cela est une bonne nouvelle, l'inconnu de l'équation pour le développement économique du Ombomou reste la volonté politique des autorités qui souffrent pour l'instant de visibilité. Alors, pourquoi le Ombomou s'enfonce-t-il davantage dans le chaos sans être secouru? Qu'est-ce qui constitue l'obstacle insurmontable de l'État à investir réellement dans le Ombomou? Le désarmement de la Séléka et de la LRA suffit-il pour corriger ces problèmes devenus de fait structurels? Que faire pour baisser l'inflation et sauver l'éducation largement tenue par les non-professionnels dans le Ombomou? Autant de questions auxquelles nous débattrons ensemble dans cette émission. Nous recevons dans ce débat le colonel Jude Ngayakom, préfet du Ombomou. Il représente les pouvoirs publics. Monsieur le préfet Jude Ngayakom, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous sommes en ligne depuis Bangui avec le député Ernest Misedio, député de Bo. Il est de l'URCA, parti d'opposition. Honorable Ernest Misedio, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand.
Merci d'être de nous dans cette émission. Nous recevons aussi autour du plateau Madame Monique Nana, présidente de l'organisation de la femme Dobo. Madame Monique Nana, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Enfin, nous avons autour du plateau Stanislas Siambodja, membre de la plateforme de la société civile et responsable de l'association Services sans frontières, une organisation locale. Monsieur Stanislas Siambodja, bonjour.
Merci Monsieur le journaliste.
Au centre du débat, appelez-moi Jean-Fernand Koina. Je bénéficie de l'appui technique de Gabriel Trésor Yenimati et de Charles Na et de la collaboration, je veux dire, de Dimanche Ricardo. Émission Patara, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Une fois le décor planté, monsieur le préfet, vous représentez ici les pouvoirs publics dans cette émission. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui la situation de Obo que nous venons de brosser?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour cette initiative. Je crois que j'ai pris service depuis décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu des choses, mais ensemble avec la société civile, les leaders communautaires, on a réduit le taux de violence et à Mboki et à Bambouti. Et un travail a été fait long à large. Et je crois aujourd'hui avoir amorcé la sortie du Ombomou dans cette violence.
Oui, amorcer la sortie du Ombomou dans la violence, c'est une chose à encourager. Mais aujourd'hui, est-ce que le Ombomou est une région isolée et abandonnée?
Je ne dirais pas isolée. S'il y a le représentant du chef de l'État qui est là, le préfet, et je crois que s'il y a les honorables députés, ils sont élus par les électeurs. Donc ça, c'est une partie de la République. Donc, je ne dirais pas que c'est une partie à part.
Monsieur Ernest Misedio, vous venez d'écouter le représentant des pouvoirs publics, qui est le préfet ici présent, qui ne pense pas qu'aujourd'hui la région du Ombomou dans l'ensemble et Obo en particulier n'est pas une région isolée, alors qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de faisceaux qui attestent qu'aujourd'hui Obo manque de tout. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment en tant que représentant élu de la localité?
Je vous remercie, Jean-Fernand. En fait, tout dépend de la définition de l'isolation que le préfet se donne. Il est évident que le Ombomou est isolé. C'est une évidence. Il suffit de voir, de savoir comment il faut faire pour accéder à une quelconque des villes du Ombomou. Lorsque je prends le cas de Obo particulièrement, dites-moi combien de véhicules accèdent à Obo par mois, par semaine et même par an. Et vous avez compris qu'à Obo, Obo manque de tout. Nous n'avons pratiquement pas de produits de première. Ou alors, quand on arrive à avoir ça, c'est à des prix, mais des prix exorbitants. Dû à quoi? Dû au fait que, justement, Obo est isolé. Alors, pourquoi le Mbomo en général, la préfecture du Mbomo est-elle? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Lorsque vous quittez Bangui pour arriver à Obo, il vous faut un mois à peu près avec un véhicule tout-terrain, du genre MAN tout-terrain, pour arriver à Obo. Parce que les routes sont impraticables. Les routes sont dans un état de délabrement, mais total. Personne ne l'ignore. Le gouvernement le sait. Les premiers ministres qui se sont succédés ont été informés sur cet état des choses. Donc vous comprenez que dire qu'aujourd'hui, Obo n'est pas isolé, tout simplement parce qu'il y a le préfet là-bas, parce qu'il y a le sous-préfet là-bas, c'est une façon de se moquer des populations de cette partie du pays.
Mais seulement cette situation ne date pas d'aujourd'hui, honorable. Cette situation a beaucoup duré, ça remonte de très loin. Comment vous pouvez expliquer le fait qu'aujourd'hui, depuis des décennies, Obo reste toujours dans cette situation?
Oui, justement. Obo a toujours été abandonné. Et ça, on l'a toujours dit. Obo a été abandonné par tous les gouvernements qui se sont succédés. Observez et vous verrez. Obo a toujours été abandonné par tous les gouvernements qui se sont succédés. Non seulement sous le président Touadéra, mais sous ses prédécesseurs également. Donc vous comprenez que dire qu'aujourd'hui, le Mbomo n'est pas isolé, mais c'est regrettable de le dire. Le Mbomo est bel et bien isolé.
Nous comprenons votre position, Madame Monique. Aujourd'hui, en tant que présidente de l'organisation de la femme de Obo, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'être délaissée par le pouvoir central à Bangui?
Oui, je pense que pour le moment, on ne sait pas comment les femmes peuvent faire, puisque nous sommes abandonnés ici. Mais merci au MINUSCA qui nous aide au moins avec des produits, avec des quoi, avec des sensibilisations ou bien quoi. C'est pour cela que les femmes sont levées quand même. Mais pour le gouvernement, bien sûr, le préfet est là, le sous-préfet est là, tout le monde est là, mais nous souffrons, puisque les taux de quoi haussent beaucoup sur Obo. Le savon qu'on achète à Bangui à 150 francs, c'est ici à 500 francs. On va le sucre, une boîte de tomates de sucre à 200 francs. Tu as 3 enfants, ou bien 4, ou bien 5, mais là, qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant-là? C'est pour cela qu'on demande aussi au gouvernement de nous aider. Puisque ici, tu quittes Obo. Moi aussi, personnellement, j'ai quitté Obo l'autre jour avec le véhicule. Je fais un mois et 20 jours pour arriver à Bangui, avec beaucoup de taxes sur les rebelles et beaucoup de taxes aussi sur notre fracas sur la route. Donc là, comment tu peux faire aussi pour arriver à Bangui? Bangui est notre capitale, mais personne ne peut partir là-bas, puisque pour quitter Obo, partir à Bangui, c'est 100 000 francs. Mais comment tu peux faire pour arriver à Bangui?
Monsieur Sambodja, vous qui êtes aussi de la société civile, au dehors de double enclavement de Obo, comment vous faites la lecture de la situation dans laquelle vit aujourd'hui la population du Mbomo en général et celle de Obo en particulier?
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné la parole pour exprimer sur la situation du Mbomo en général et Obo en particulier. Vous venez d'évoquer tout à l'heure que la situation de Obo, je peux dire qu'elle est totalement chaotique. Pourquoi j'ai dit chaotique? Parce que l'accessibilité que nous venons d'aborder tout de suite là, que la route pour arriver à Obo, ce n'est pas facile. De toutes les façons, la voie aérienne n'existait pas pour un simple centrafricain lambda qui décide aujourd'hui d'aller à Bangui ou de quitter Bangui pour venir ici, sauf les humanitaires. Mais ce n'est pas permis à tout le monde. Donc la situation de Obo est vraiment grave, très très grave, parce qu'il n'y a pas d'accessibilité. Il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien sur le marché. Les produits de première nécessité que venait d'évoquer le représentant élu de la localité venait d'évoquer tout de suite là que même le savon à 500 francs, alors qu'à Bangui c'est à 125 francs, on connaît le prix. Mais pour que ces produits-là arrivent à Obo, il te faut au moins une année. Pour que, je me rappelle, ça fait une année que le véhicule n'a pas atteint Obo depuis Bangui. Donc vraiment la situation de Obo, on peut le dire et crier haut, que la situation est vraiment chaotique.
Monsieur le préfet, pendant le dialogue républicain à Bangui, vous avez fait un plaidoyer sur la situation de Mbomo, en particulier de Obo. Quel est aujourd'hui le plan du gouvernement pour essayer de trouver une solution à cette situation de crise structurelle que vit aujourd'hui les habitants de la région du Mbomo?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que je vis la même peine que cette population. Et cela ne veut pas dire que le gouvernement a oublié le Mbomo. Sinon, le préfet ne serait pas là. Suite au dialogue républicain à Bangui, je crois que le préfet a parlé, et ma suite a parlé. Et immédiatement, une chose a été retenue par le gouvernement, c'est le désarmement. Je crois qu'un travail a été fait et le gouvernement est en train de voir comment il faut faire pour réparer la route, parce que la route, ce n'est pas seulement dans le Haut-Mbomou, hein, il y a le Mbomou aussi, hein, pour arriver à Bambari, c'est un problème. Pour Bambari-Grimari, c'est un problème. Voilà, donc c'est tout un processus. Je crois que le gouvernement a cette situation sur la table et je crois qu'on va se retrouver avec une situation d'ici un petit peu positive.
Oui, monsieur le préfet, nous notons la bonne volonté du gouvernement à faire avancer les choses. Mais vous venez de dire que c'est depuis 2016 que vous êtes ici et c'est depuis 2016 que vous constatez cette situation. Alors qu'en 2016, il y a aussi des avancées, par exemple, dans le cadre du RCPCA. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a même pas d'impact visible du RCPCA ici dans la région du Haut-Mbomou et en particulier au Haut-Mbomou?
Merci beaucoup pour cette question pertinente. Je crois que cette question, je l'ai évoqué un jour devant un de mes hirachi à Bangui. La réponse qu'on m'a donnée, on m'a dit que c'est des bailleurs qui choisissent l'endroit où ils doivent injecter de l'argent. Et c'est ça qui pose problème. Alors que Haut-Mbomou a pris part activement à la mise en place de cette initiative. Alors pourquoi Haut-Mbomou est mis à l'écart? Donc voilà, il y a cette situation aussi qui a fait que le Haut-Mbomou est toujours dans cette situation.
Donc il y a une carence de volonté politique?
Je n'en sais pas trop, mais des partenaires, parce que c'est au gouvernement de s'imposer aux partenaires, parce qu'il n'y a pas, toutes les régions sont les mêmes. Je ne vois pas pourquoi RCPCA peut intervenir à Boire, à Bossangwa et un peu partout, mais pas dans le Haut-Mbomou.
Honorable Ernest Misedjo, aujourd'hui, le gouvernement, depuis 2016, a porté le RCPCA, mais le RCPCA n'est pas visible ici pour impacter le quotidien de la population. Est-ce que réellement, on est arrivé à un niveau de manque de volonté politique pour le développement du Haut-Mbomou?
Monsieur le journaliste, je ne vous le fais pas dire. Hein. Quand vous évoquez le RCPCA, vous devez savoir que le RCPCA a été exécuté à hauteur de 70% déjà. Et comme vous venez de le remarquer, il n'y a pas d'impact visible sur la localité d'Obo en particulier et du Haut-Mbomou en général. Et là, je vous ai entendu parler tout de suite là par rapport à la volonté du gouvernement, hein, d'impulser, d'orienter des investissements vers cette localité. C'est évident. Il y a un manque criard de volonté. Le gouvernement n'a jamais manifesté une quelconque volonté d'impulser le développement de cette localité. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, nous sommes tous des centrafricains. On s'est souvent posé la question de savoir si cette partie du pays est encore de la République centrafricaine. Est-ce que nous faisons encore partie de la RC? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que moi, élu de la nation, je me pose. C'est la question que les populations qui m'ont élu se posent. On se demande, est-ce que nous sommes encore de la République centrafricaine? Il est évident qu'il y a un manque criard de volonté de la part du gouvernement pour pouvoir injecter de l'argent, investir dans cette partie du pays. Vous remarquerez que les investissements sont orientés toujours vers les mêmes zones, les mêmes localités, la même partie du pays. Si ce n'est pas à l'ouest, c'est au nord. Avant, c'était à l'ouest. Et depuis que les compatriotes du nord ont pris les armes et ont montré des muscles, c'est maintenant vers le nord que tous les investissements sont orientés. Alors, lorsqu'on parle des bailleurs, est-ce que c'est dit que pour que les bailleurs puissent nous remarquer, il faut qu'on prenne les armes? Est-ce que c'est ça le message qu'on veut nous envoyer? Et si c'est le message qu'on nous le dit clairement, comme ça, les gens s'organisent. Mais nous, dans le Haut-Mbomou, on a refusé. À Obo particulièrement, on a refusé de prendre les armes. On a refusé de prendre les armes parce qu'on s'est dit, prendre les armes, non seulement ça joue sur nous, mais ça détruit. Nous, on a voulu être pacifiques. Mais malheureusement, on a l'impression que ça ne nous aide pas. Hein, je le dis clairement. Alors, donc, nous sommes au regret de constater justement que aucune volonté du gouvernement n'est dans le sens d'investir dans cette localité.
Ok, vous remarquerez que en vous écoutant, vous mettez en exergue le manque de volonté du gouvernement. Mais ici, quand on parle de la volonté politique, on parle aussi de l'exécutif et même du législatif qui, d'eux, autorisent parfois le gouvernement à lever des taxes, à prélever des impôts. Le Haut-Mbomou a ses représentants à l'Assemblée nationale, de fait.
Est-ce que ceux qui représentent le Haut-Mbomou ne sont-ils pas aussi comptables de cette situation?
Je ne pense pas, parce que nous avons alerté le gouvernement régulièrement. Monsieur Jean Fernand, vous savez que nous, notre rôle, comme vous le dites, de voter les lois, notre rôle, c'est interpeller le gouvernement, donc contrôler le gouvernement à travers des interpellations pour le rappeler à l'ordre. pour attirer son attention sur les manquements qui sont partis et par là. Et pour le cas précis du Ombomou, nous avons plusieurs fois attiré l'attention du gouvernement. Nous avons plusieurs fois interpellé le gouvernement sur la situation du Sud-Est en général et du Ombomou en particulier. Mais jusque-là, les réponses sont toujours les mêmes. Le gouvernement est en train de s'organiser, le gouvernement est en train de penser à faire quelque chose, mais rien n'est fait. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs décennies. Je suis à l'Assemblée nationale, ça fait déjà 3 législatures, mais c'est toujours la même chose. On a crié, on a secoué le gouvernement de toutes les manières possibles, mais le gouvernement n'a pas bronché. Le gouvernement n'a pas levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit dans cette partie du pays. Vous remarquerez que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, il y a des cultures de rente ailleurs, le café, le cacao, le coton, etc. Observez à Obo. Vous ne verrez rien de ce genre. Comment le gouvernement peut-il penser que les habitants de ce côté-là arrivent-ils à s'en sortir? Donc vous comprenez que la responsabilité du législatif, si ça existe, mais serait vraiment infime face à la grande responsabilité du gouvernement dans cette affaire.
Ok, nous comprenons. Vous venez d'écouter le préfet, y compris le député Ernest Misedio.
Est-ce que parce que la région du Ombomou et la localité de Obo ne sont pas productrices
d'une culture de rente telle que café, telle que coton, qui peut expliquer aujourd'hui un désintéressement de l'État par rapport à la région?
Merci, monsieur le journaliste. Mais je peux dire que longtemps, le Ombomou faisait partie des préfectures qui produisaient des cafés. Mais comme on disait tout à l'heure que c'est la volonté politique qui n'existait pas. C'est-à-dire, auparavant, ces choses-là existaient. Ça existait au temps de Bokassa. Nous, on n'était pas au temps de Bokassa, mais on a pu constater que dans l'histoire, le café, la production de quelques produits existait dans le Ombomou. Mais avec le gouvernement qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, toutes ces cultures sont parties en petit feu. On ne comprend pas. Quand tu arrives à Obo, il n'y a pas de culture de rente à Obo. Donc, ce qui montre effectivement qu'il manque effectivement une volonté pour accompagner, même si la population est à volonté de faire quelque chose. Mais s'il n'y a pas la volonté du gouvernement pour accompagner, il n'y aura rien. Donc, la présence de l'État dans le Ombomou est juste comme un petit goutte d'eau dans la mer. Donc, ça ne rentre pas vraiment ce qu'il fallait faire, ce que l'État devrait faire pour accompagner la RCA en général. Mais ce n'est pas, le constat n'est pas seulement dans le Ombomou. Mais comme on est dans le Ombomou, on est obligé de parler exclusivement par rapport à la situation du Ombomou et plus particulièrement à Obo. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à votre question.
Ok, Madame Monique Nana, aujourd'hui, est-ce que l'abandon de l'État par rapport à la situation de Obo est dû au fait que économiquement, elle est faible?
Merci, monsieur le journaliste, c'est toujours faible, puisque l'État ne fait rien ici. Auparavant, quand Mécanis là, ça a dit, il y avait des productions ici, il y avait des tabacs, il y avait des cafés, mais pour le moment, il n'y a rien. Les jeunes sont toujours dans les quartiers, puisqu'il n'y a pas de travail. Je pense qu'il faut que le gouvernement regarde sur nous ici à Obo, puisque les gens sont toujours abandonnés. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici avec ce que le gouvernement nous fait?
Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la population peut décider d'abandonner, par exemple, le tabac, le café, qui est une source de l'économie et de l'essor de la région?
Mais ce n'est pas la population qui a abandonné. On ne sait pas comment c'était passé. Or, auparavant, il y avait des cafés, il y avait des tabacs. Mais pour le moment, il n'y a rien. Il faut quand même le gouvernement regarde sur nous ici pour envoyer encore des productions ici aux jeunes ou bien aux gens pour cultiver. Pour le moment, il n'y a rien.
Monsieur le préfet Jude Ngayankor, aujourd'hui, la région du Ombomou, quand on affecte un personnel de l'État ici, cette affectation est considérée comme une punition. D'aucuns ne veulent pas venir, d'autres même s'ils arrivent et quand ils trouvent une occasion de repartir sur Bangui, ils partent pour de bon. Qu'est-ce que l'État fait? Quel est le plan du gouvernement pour essayer de corriger cette situation?
Merci beaucoup. Je crois que le préfet a initié plusieurs correspondances au DR, c'est-à-dire au ministère, pour que les DR, qui sont des responsables, qui sont en charge des personnels affectés, déployés sur le terrain, je crois que jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Parfois, le fonctionnaire qui est envoyé ici, peut-être il a des parapluies, il a un grand frein, voilà quoi. Parfois, il va au ministère, il dit bonjour à l'hiérarchie, et sans pour autant lui poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes affecté. Alors, c'est ça le problème. Si le préfet est là, le sous-préfet est là, et les autres sont là, pourquoi pas ceux-là? Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune sanction qui pourrait stimuler les autres à abandonner cette mauvaise habitude. Donc, c'est la portion centrale que moi, je compte sur elle.
Est-ce que vous vous sentez fragilisé par rapport à cet état de fait?
Mais bien sûr. Parce que, par exemple, si une ONG demande un spécialiste dans le domaine de l'agriculture et la personne qualifiée n'est pas là, ça fait un problème. Donc voilà, c'est à peu près...
Monsieur Ernest Misedio, vous venez d'écouter aussi le représentant des pouvoirs publics dans ce débat. Aujourd'hui, bon nombre de fonctionnaires et agents de l'État qui sont affectés à Obo refusent parfois systématiquement de prendre service. Ceux qui sont sur place sont parfois aussi absorbés par les organisations humanitaires qui sont dans la ville. Pensez-vous qu'avec un tel rythme, il peut y avoir un rebond positif pour la présence de l'autorité de l'État dans le Mbomo?
Oui, monsieur le journaliste, vous savez, c'est en fait ce qui donne l'impression que plus on cherche à avancer, moins on le fait. C'est-à-dire on ne fait que s'enfoncer. C'est le laxisme du gouvernement qui fait en sorte que les agents ne vont pas à leur poste d'affectation. Parce qu'il y a des lois et règlements, il y a des textes qui régissent donc le fonctionnement de l'État. Lorsqu'un fonctionnaire a été affecté, il émarge sur le budget de l'État. Il est payé régulièrement. Il ne prend pas son poste. Mais je crois que la hiérarchie devrait pouvoir alerter et que des dispositions ou des sanctions soient prises. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? Le népotisme, la corruption a tellement gangréné nos systèmes qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur. Il suffit d'avoir un peu d'argent, d'aller corrompre X ou Y à je ne sais pas à quel niveau. Les documents qui devaient permettre d'établir tel autre fonctionnaire n'a pas rejoint son poste disparaissent. Il y a un X, Y qui est le grand frère ou l'oncle ou je ne sais pas qui de l'agent en question qui intervient pour que son neveu ou son fils ou je ne sais pas qui ne parte pas prendre son poste à l'intérieur du pays. Généralement, ils disent que c'est pour cause d'insécurité. Mais une zone comme Obo, il n'y a pas d'insécurité à Obo, à ce que je sache. Il n'y a pas eu de guerre à Obo, il n'y a pas eu d'anti-balaka, il n'y a pas eu de Sélec à Obo. Mais pourquoi les agents de l'État refusent-ils de rejoindre Obo? Je prends le cas de l'éducation. Il y a des enseignants qui ont été régulièrement affectés au lycée d'Obo et dans des écoles primaires d'Obo. Ça va faire maintenant plus de 2 ans que je cours derrière ce dossier-là. Ces enseignants qui ont été affectés ont refusé d'aller prendre leur poste. Ils sont connus nommément. La loi prévoit que dans de tels cas, que leur salaire soit suspendu. Mais les salaires ne sont pas suspendus. Il y a même des responsables qui sont au ministère qui ont sur eux de signer des notes de service pour ramener les agents de l'État à Bangui. C'est déplorable. Et tout le monde est au courant. On a décrié ça, monsieur le journaliste. Les ministres sont au courant. Le premier ministre est au courant. Le président de la République est au courant. Mais aucune disposition n'est prise pour que ces gens-là soient mis au pas. C'est regrettable.
Ok.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque un désordre comme ça s'installe, mais les gens en profitent.
Monsieur
et c'est
Stanis...
ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Okay. Les gens ne profitent que du désordre qui s'est installé dans le pays.
Les gens profitent du désordre qui est installé dans le pays. Monsieur Stanislas, est-ce que aujourd'hui, au niveau de la préfecture, par exemple, de Obo, toutes les écoles sont tenues par les enseignants qui ne sont pas des professionnels, des agents parents? Comment vous interprétez cette situation?
Merci, monsieur le journaliste. Monsieur, c'est quelque chose qui me donne la frayeur parce que je ne vois pas l'avenir du Mbomo avec les maîtres parents. Parce que sur les 9 établissements qui sont à Obo, avec 49 maîtres parents, sans même un instituteur qualifié de l'État, un instituteur qualifié de l'État qui était présent, on l'a nommé, il est maintenant en Mboki comme intendant. Comment vous voulez que, même pour que ce pays, pour cette localité, puisse se développer, comment peut se développer une localité avec de telles capacités d'enseignants comme ça, qui ont avec le minimum de niveau CM2 pour enseigner les enfants? Les prises de conscience, même au niveau de l'État, même le préfet qui suit devant moi, a décrié, lui-même il sait que, ce que je dis, et c'est clair, qu'il n'y a pas d'enseignants à Obo. Dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures du Mbomo, je ne pense pas peut-être à Zemio, mais à Obo, sur les 9 bâtiments, 9 établissements, il y a 49 enseignants, maîtres parents, aucun titulaire parmi. Vous voulez que le pays va se développer comment? La préfecture va se développer comment? Est-ce que demain on aura des élites? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont nous représenter d'ici 5 ans, 10 ans? Je ne pense pas.
avec ces baisses de niveau, c'est quelque chose qu'on crie chaque jour. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que ça fait partie de la République centrafricaine. Nous ne sommes pas de la République du Sud-Soudan. Alors, quand vous arrivez à Obo, vous constatez que les enfants sont à la maison parce qu'ils savent très bien que si partir à l'école avec des enseignants, maîtres parents, qui va à l'école pour une journée, demain il est au champ pour au moins 5 jours, vous comprenez qu'il y a un défi à relever. Il faut que le gouvernement prennent ses responsabilités parce que nous sommes aussi des centrafricains.
C'est une situation qu'il faut pallier très rapidement. Madame Monique Nana, est-ce que cette situation, comment les femmes perçoivent ce problème de la société, notamment l'école qui manque aujourd'hui des enseignants qualifiés?
Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'ici, 2030, on ne va pas trouver encore des élèves ici qui vont parler français. Puisqu'il n'y a pas d'enseignants ici, ce sont tous des maîtres parents. Les maîtres parents, comme Canistra, ça a dit, il enseigne une fois ou bien deux fois dans une semaine, il va au champ. Mais les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester toujours à la maison. Il faut que le gouvernement aussi pense sur nous ici. Nous sommes des Centrafricains. Il y a des femmes aussi qui veulent faire partir à l'école, mais il part, il n'y a pas des enseignants. Il y a seulement des maîtres parents. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qu'on demande au gouvernement, de laisser, surtout au ministère, de laisser le problème des goros là. Toujours de l'argent pour donner au ministre ou bien qui pour laisser les enseignants là-bas à Bangui, ce n'est pas bon. Il faut laisser les enseignants venir ici à Obo. Nous sommes aussi des Centrafricains. Il y a des élèves ici qui veulent aussi étudier, mais il n'y a pas des enseignants. Qu'est-ce qu'on va faire?
Oui, je vais encore revenir sur la question des enseignants, les maîtres parents. Je crois que il ne faut pas être trop méchant avec cette catégorie. Si les maîtres parents sont là, au moins la politique peut remercier ses maîtres parents. Même si le niveau n'est pas tellement appréciable, mais au moins 3 années aujourd'hui, mais on a eu des enfants qui ont eu leur baccalauréat. Même cette année-ci, c'était une fille. Je me suis battu avec la MINUSCA pour que cette fille arrive à Bangui pour s'inscrire à l'université. Donc il y a un effort dans ce sens. Dire que les maîtres parents ne font rien, moi je dirais que c'est vraiment méchant. Mais alors que c'est une décision du gouvernement. Apparemment, les maîtres parents, j'ai écouté Birao, les maîtres parents de Birao sont rentrés en grève et on est en train de chercher l'argent pour que ces gens, ces derniers, puissent retourner à l'école, s'occuper de ces enfants. Donc, ne parlez pas trop mauvais de ces maîtres parents, parce que ça, c'est vraiment une possibilité.
Mais monsieur le préfet, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, le gouvernement est en contradiction avec lui-même de suspendre d'un côté toute activité des vacataires, des agents parents, mais de l'autre côté, ne pas disposer des personnes ressources pour enseigner? Est-ce que vous ne voyez pas là une contradiction énorme?
C'était une grave erreur parce qu'il fallait spécifier les sanctions. C'est-à-dire qu'il faut avoir donné la sanction à des zones où, si on peut aller jusqu'au centre, c'est bon, Kakabandoro, Sibut, Grimari, tout ça, le gouvernement a eu là-dessus. Mais ici, dans le Oumoumou, d'abord, les gens arrivent difficilement. Et on va prendre un décret pour suspendre la vacation. Vous voyez comment ça coûte. Or, ici, on a nos frères qui sont dans les ONG qui interviennent, parfois gratuitement. Mais comme ce décret a vu le jour, pris par la peur, ils se sont retirés. Mais au moins, il faut louer les efforts des maîtres parents. Si on dit que les maîtres parents ne vaut rien, non, moi, je ne suis pas d'accord.
Ok, nous comprenons votre position. Monsieur Ernest Misedio, aujourd'hui, il faut encourager les maîtres parents qui font de l'effort. Ne voyez-vous pas aussi une contradiction de la part du gouvernement qui, d'un côté, interdit le travail des vacataires, mais de l'autre côté, fait la promotion des agents parents ici dans le Oumoumou en promouvant les agents parents qui continuent d'enseigner, de dispenser des cours dans les salles de classe?
Oui, je pense que c'est pas une contradiction. Ce qui est là, c'est que je pense que le ministère de l'Éducation nationale s'est fait prendre dans son propre piège. Parce que normalement, avant de suspendre les vacations, des dispositions devaient être prises pour que on ait des enseignants en remplacement donc de ces vacataires-là. Ce qui n'a pas été le cas. Pour ce qui est du primaire, pour ce qui est des maîtres parents, si aujourd'hui on demande aux maîtres parents d'arrêter, donc de suspendre leurs activités, vous allez comprendre que toutes les écoles de la République centrafricaine vont fermer leurs portes. Toutes les écoles vont fermer leurs portes. Parce que le ministère, je crois, est conscient du fait que dans les écoles de l'arrière-pays, il n'y a que les maîtres parents. Comme disait tout à l'heure Stanislas, à Obo, il y a 49 maîtres parents. Aucun instituteur légalement affecter donc aucun professionnel de l'enseignement. Alors si aujourd'hui on dit aux maîtres parents de ne plus exercer, ben vous allez comprendre que les salles de classe vont purement et simplement fermer leurs portes. Je crois que le gouvernement se retrouve dans une sorte d'engrenage où il ne sait même pas comment s'en sortir. C'est des lacunes qui ont été accumulées pendant je ne sais pas combien d'années. Et aujourd'hui, ça nous saute à la figure. Il nous faut des enseignants, il nous faut des instituteurs. Mais je crois que ce que nous avons proposé, jadis, c'était de trier parmi les maîtres parents là, ceux qui ont peut-être un niveau, les envoyer en formation, hein, en attendant que d'autres instituteurs ne viennent pour les remplacer. Parce que dans tous les cas, je ne crois pas qu'il y ait une autre solution, du moment où il n'y a pas d'instituteur, par exemple à l'intérieur du pays. Donc la situation est celle-là. C'est un mal, mais c'est un mal nécessaire parce que on ne peut pas aujourd'hui se séparer, se départir de ces enseignants-là. Vous comprenez donc que le gouvernement s'est pris lui-même à son propre piège.
C'est un mal nécessaire. Le préfet voulait réagir.
Oui, je crois que cette initiative, je représente le gouvernement ici. Je crois que j'ai sauté sur cette situation avec la société civile, on a discuté. Et finalement, pour cette année, on a envoyé au moins 3 qui sont partis à Bangassou, composés. Et de mon retour de Bangui, ils étaient dans le même avion avec moi et ils sont à Obo. Je crois que ça, c'est déjà une petite sortie vers une vraiment réalité qui sera vraiment à la une pour nos enfants.
Ok. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette situation peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a l'insécurité. Mais la bonne nouvelle, monsieur le préfet, c'est l'annonce des groupes armés qui écument la région de déposer les armes. Est-ce que cela peut être aujourd'hui de l'aubaine pour permettre à redonner confiance aux fonctionnaires agents de l'État qui sont déployés ici à venir?
Merci beaucoup. Je crois que c'est une très bonne annonce. Et puis, je suis ça personnellement. Avant de descendre à Bangui, j'ai eu à discuter plusieurs fois avec les chefs de groupes rebelles. D'abord, il y a un groupe rebelle, c'est-à-dire l'UPC et LRA, depuis 2008, qui est installé dans le Omomou. Et je crois qu'à l'issue de toutes ces discussions avec toutes les constitutions, après le dialogue républicain à Bangui, le chef de l'État m'a reçu. Et il a autorisé au ministre d'État en charge du désarmement et le ministre d'État d'IRCAP du président de tenir une réunion afin qu'une équipe soit là d'ici la semaine prochaine. Donc la date victoire pour l'arrivée de cette équipe pour le désarmement, je crois que c'est le 12. Donc je crois qu'il y a un nouveau souffle qui est en train de se présenter et je crois qu'ensemble, et c'est ce que je demande à la société civile, aux leaders communautaires, à l'UFC, à tout le monde, à toute la jeunesse, de s'aligner derrière le préfet pour que cette préoccupation-là soit à la une pour que, au demain, nos populations vaquent bien à leurs occupations.
Oui, ils sont là, ils ont écouté votre appel de pied. Mais Madame Monique Nana, ces groupes armés qui sont ici dans la région ont commis beaucoup d'atrocités, notamment chez les femmes. Est-ce que aujourd'hui, quand ils décident de déposer les armes, comment vous, en tant que femme, vous avez déjà accueilli cette annonce?
Vraiment, je vous remercie, monsieur le journaliste. Bravo pour le groupe armé là qui veut sortir. Nous, les femmes, nous voulons ça. Puisque l'autre jour, en 2008 jusqu'à aujourd'hui, les femmes ne sont pas en sécurité parce que les femmes partaient l'autre jour à la pêche. Au temps des LRA, depuis 2008, les femmes souffrent beaucoup. Nous voulons que le groupe armé là vienne déposer leurs armes.
Oui, les groupes armés doivent déposer leurs armes. Monsieur Stanislas, il se pose aussi un problème de justice. Ces groupes armés ont commis quand même beaucoup d'atrocités. Est-ce qu'il faut passer par un vetting pour voir ceux qui sont admissibles pour répondre aussi devant le tribunal?
Je pense que pour le moment, le nécessaire, c'est de déposer les armes, premièrement. Je pense aussi qu'il y a une commission de vérification où ceux qui ont commis, il y a des documentations, il y a les droits de l'homme, il y a des instances au niveau de la MINUSCA, au niveau local même, hein, qui documentent les incidents avec les noms de chaque représentant. Par exemple, si le chef de groupes armés qui se trouve à Bambouti, son nom c'est tel, ou Amboki, son nom c'est tel, si ces éléments-là sont là, je pense que la justice, pour le moment, la priorité c'est de déposer les armes et le reste viendra parce que il faut mettre le gouvernement devant son épreuve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les groupes armés doivent déposer, il faut que ça suive par
la justice. Et la justice doit venir après parce que la population a besoin de se vaquer librement à ses occupations. Comme pour le moment, les gens ne circulent pas. Pour aller à Mboki ou à Bambouti ou dans les zones, il faut penser aux taxes, il faut penser à tout. Parce que même tu peux perdre même ta vie. Même il y a des ONG qui veulent intervenir dans des zones difficiles d'accès. Par exemple à Bambouti, mais les groupes armés qui sont là-bas ont bloqué l'autre jour la moto d'une ONG copie. Mais ça freine tout. Donc tous ceux-là, comme ils ont décidé de déposer les armes, bravo, merci, c'est ce que tous les Centrafricains aspirent, même partout dans la République centrafricaine. Mais pour le moment, la priorité, c'est de déposer les armes. La justice, ça va venir. Quelle que soit la durée de la nuit, il y aura toujours la justice.
Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Monsieur le préfet, une chose est de déposer les armes. Mais quel est aujourd'hui ce que le gouvernement a un plan pour permettre qu'avec le dépôt des armes des groupes armés, l'économie puisse se relancer, puisque les investisseurs, ceux qui veulent venir, ceux qui font aussi le commerce, ont beaucoup plus peur de venir à cause de ces groupes armés. Mais maintenant que les groupes armés annoncent leur volonté de déposer les armes, comment le gouvernement va faire pour essayer de relancer l'économie ici dans le Omboum?
Je crois que au niveau local, la préfecture a son plan d'après désarmement et qui va présenter au gouvernement. D'ailleurs, le brouillon est parti. Donc, je crois qu'il y aura une relance économique. Il y aura,
cette relance économique va passer par où?
Mais par Bangassou. On va commencer par Bangassou, les échanges. Hein, par Bangassou déjà, parce que au moins Bangassou, pour arriver dans le Omboumou, c'est au moins proche. Il y a des gros véhicules là-bas et on saura comment faire des échanges. Ça, c'est déjà... Parce qu'il faut commencer par le petit. Si on va commencer par Bangui, ça va être dur pour l'instant. Donc nous, c'est l'urgence. Hein, c'est le projet d'urgence que nous cherchons ici. Donc après le désarmement, je crois qu'il y aura un plan de relèvement qui est mis en place. Et avec le sous-préfet de Zemio, de Djema, de Obo, ils vont travailler ensemble pour que qui a un suivi dans ce sens pour que ça soit rentable, profitable à nos populations.
Monsieur Ernest Mizedjo, depuis longtemps, ceux qui veulent faire des activités économiques pour relancer l'économie de la région sont beaucoup plus hésitants du fait de ces groupes armés. Maintenant que les groupes armés veulent déposer les armes, pensez-vous qu'il y a de possibilités pour relancer l'économie du Omboumou à partir de la volonté, sur la présomption de la bonne volonté de ces leaders des groupes armés?
Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Les groupes armés, vous voulez parler, je ne sais pas si vous parlez de la LRA ou bien si vous parlez de l'UPC.
On parle des deux, que ce soit la LRA et aussi l'UPC.
Nous allons parler des deux. Nous allons essayer de développer sur les deux situations. Pour ce qui est de la LRA, La LRA, en principe, n'est pas une rébellion centrafricaine. C'est une rébellion étrangère qui est arrivée, je ne sais pas pour quelle raison, en République centrafricaine, qui a massacré, qui a tué, qui a brûlé, qui a incendié des villages qui ont fait disparaître hein, pratiquement tous nos villages. Aujourd'hui, vous verrez que tout le monde est concentré à Obo et c'est pour ça qu'il y a la chérité de la ville. C'est parce que tout le monde est concentré dans la ville d'Obo. Alors, ceux-là, je pense, il n'y a pas d'autre solution. Une fois qu'ils ont déposé les armes, il va falloir que la justice s'en occupe. Il faudrait qu'on les amène ailleurs, qu'on les déporte ailleurs pour les juger, ainsi de suite, pour traiter de leur cas. Je crois que ça, c'est une situation claire. Donc, pour le fait de l'UPC, jusqu'à preuve du contraire, moi, je doute de la volonté de l'UPC de déposer les armes. Je doute de cette volonté.
Mais pourquoi vous doutez?
L'UPC, je doute de la volonté de l'UPC, donc des éléments de l'UPC de déposer les armes.
Mais la question, c'est pourquoi? Quels sont les éléments qui constituent votre doute?
Le doute se repose sur des faits évidents. Il y a eu des accords entre le gouvernement et l'UPC. Mais l'UPC n'a jamais respecté sa part hein, de ces accords-là. Et d'ailleurs, les éléments de l'UPC, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont pour la plupart des étrangers. Ce sont des mercenaires étrangers, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur et qui ont commencé à massacrer, qui ont recruté bien sûr sur le territoire national, mais qui sont venus d'ailleurs pour piller, pour spolier le pays, pour piller les ressources, etc. C'est ça ce qui constitue l'UPC. Et eux, ils n'ont aucun intérêt à déposer les armes. Ils n'ont aucun intérêt parce que déposer les armes pour eux signifie perdre tous les avantages qu'ils ont, perdre les terres, les terrains qu'ils ont conquis, les chantiers miniers qu'ils ont conquis, c'est ça ce que signifie pour eux faire déposer les armes. À partir de ce moment-là, je suis en droit de douter de la volonté de l'UPC de déposer les armes. Après les accords de Khartoum, on a dit qu'il faut que l'UPC dépose les armes, il faut que les barrières soient démantelées, etc. Mboki, ils sont toujours là. Ils se baladent entre Mboki et Bambouti, mais sans être inquiétés. On a appris que la MINUSCA a eu un mandat robuste pour obliger l'UPC à déposer les armes, à respecter les accords de Khartoum. Monsieur Kouena, ça fait plus de 2 ans qu'on est là-dessus. Aucune arme n'a été déposée, aucune barrière n'a été démantelée. Et la MINUSCA, d'ailleurs, ne donne aucun signe de volonté pour désarmer ces gens-là. On nous embrouille. Tout ça, là, c'est une façon seulement de nous embrouiller. C'est une façon de nous endormir. On veut du concret, mais chaque jour, c'est comme si c'est une lumière qui s'éloigne. Plus on s'approche de cette lumière-là, elle s'éloigne. Okay. L'UPC, je ne crois pas que par sa seule volonté, l'UPC va déposer les armes.
Ok, monsieur le préfet, en écoutant le développement du député de la région, avez-vous le sentiment d'avoir conclu un marché de dupes avec l'UPC?
Je crois que il y a 2 choses. La MINUSCA, c'est un partenaire qui appuie le gouvernement dans toutes ses actions. Ce n'est pas la MINUSCA qui va procéder au désarmement. Ça, c'est des procédures, des mécanismes menés par le préfet et arrivés au gouvernement, et le gouvernement a pris la décision. Donc, c'est différent. Donc, ce n'est pas la MINUSCA qui va procéder au désarmement. Le désarmement, c'est purement l'affaire du gouvernement et le ministre en charge du DDR. Et je crois que ça a été soulevé pendant en dehors des rapports, mais ça a été soulevé pendant le débat républicain. Et je crois que ça a pris à cœur tout le monde. Et le 12, je crois, c'est la date victoire qu'on m'a annoncé, et la MINUSCA est au courant, pour qu'ensemble, avec nos FACA, tout ça, on va procéder à ce désarmement. Attendons. Hein, donc on n'a pas droit à dire, bon, c'est vrai, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas dire que l'UPC va rester pendant éternellement, mais ce sont nos parents qui souffrent. Donc on va essayer d'aller de l'avant et ensemble, on va apprécier. Mais dire que l'UPC ne va pas déposer les armes, je ne crois pas déjà.
Monsieur Stanislas, en suivant le développement de vos co-débatteurs, quelle lecture faites-vous aujourd'hui pour le cas UPC?
Le cas UPC dans notre zone Ombomo, je peux dire que c'est spécifique, hein, parce que dans le Ombomo, je pense que c'est UPC même, lui-même qui a demandé le désarmement. Voilà. C'est lui qui a demandé le désarmement. Ce n'était pas au gouvernement de demander à l'UPC de se désarmer. Mais moi-même, j'ai été pendant au moment où le général qui se trouve à Mboki faisait sa volonté de se désarmer. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, que comme vous m'avez posé la question pour dire que quelle est la lecture de la chose de UPC dans le Ombomo, comme ils ont annoncé, on entend voir cette volonté, si effectivement, cette fois-ci, peut-être ça peut être une chance pour nous, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, ça peut commencer de Ombomo pour dire que le UPC a respecté ses engagements et a commencé à se désarmer à partir du Ombomo, et ça va donner lecture maintenant aux autres qui sont dans d'autres zones de prendre l'exemple, parce que les armes, on ne peut pas à tout moment vivre avec les armes, même si tu es puissant comment, un jour, ça va finir. Peut-être cette volonté-là, ça va commencer par le Ombomo, parce qu'on n'a pas participé à des désordres comme dans d'autres zones. Mais c'est UPC qui est venu installer dans le Ombomo. Et comme ils ont vu qu'il n'y a personne pour combattre avec eux, ils seront décidés d'eux-mêmes de se désarmer des choses. Donc je pense que c'est une volonté qu'il faut apprécier d'abord, et voir est-ce que les aboutissants sera comment.
Est-ce que déjà en 2019, l'UPC devait s'auto-dissoudre, mais en 2019, l'UPC a fait une extension. Est-ce que vous comprenez le doute aujourd'hui du député Ernest Misejo?
Je pense que ce sont les UPC eux-mêmes qui ont demandé de se désarmer. Ce n'est pas quelqu'un qu'ils ont obligé de se désarmer. Je pense que c'est la première fois que l'UPC va désarmer ici, dans le Ombomo. Ils sont installés ici. Il n'y a personne qui sont venus à côté d'eux pour battre avec eux. Bon, ils ont vu qu'il n'y a personne, ils veulent se désarmer. L'arme là, ce n'est pas quelqu'un, tu peux toujours le prendre à côté de toi.
Oui, je voulais rebondir aussi sur cet aspect parce que UPC a vu que les circulations, par exemple dans le Hombomo, les véhicules ne viennent pas. Ils sont là pour les intérêts, ils sont là pour les taxes, ils sont là pour les diamants, ainsi de suite. Mais comme dans le Hombomo, ces activités ne se font pas régulièrement, l'axe de Bambouti est fermé. Nos voisins qui voulaient ravitailler Obo, qui devraient être même le coupement économique de la zone, mais ils ont su qu'il y a les groupes rebelles qui se trouvent à Bambouti, font des exactions, ils sont en Boki, tu ne peux pas circuler librement. Ils ont vu cet aspect-là, ils ont dit que mais ça ne sert à rien de rester dans le Hombomo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir tête haute. C'est pourquoi ils ont décidé de se désarmer et peut-être réintégrer la vie normale. Donc voilà ce que je peux...
Oui, monsieur le
préfet. Oui, mais en dehors de ça, il y a eu des correspondances. Le général... Gendérou et Bouba se sont désistés et ils ont écrit une lettre ouverte, minuscule, le gouvernement a cette lettre. Et je crois que c'est ça qui a mené ces actions pour qu'aujourd'hui, nous allons assister à ce désarmement. Donc, ils ont dit qu'ils ne sont pas dans le CPC et ils se désengagent du groupe de Alindaras. Donc, vraiment, tous ces éléments-là qui les ont amenés à demander ouvertement qu'il y ait ce désarmement pour qu'il y ait une sortie libre, digne.
Un ensemble de faisceaux qui renforce la confiance. Nous tendons vers la fin de notre émission en version française. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui le Hombomo peut faire pour baisser l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation du prix des denrées de première nécessité pour permettre au moins à la population de respirer, monsieur le préfet?
Je crois qu'il y a un effort qui est en train de se faire. Je crois que le préfet ne baisse pas les bras. Le préfet a demandé à la MINUSCA s'il peut déjà essayer avec la jeunesse, nettoyer la piste qui mène de Obo à Bambouti. Et je crois que MINUSCA a octroyé, je crois, 4 millions dans un premier temps. Et ils sont en train de nettoyer, ils sont dans les 22 kilomètres, je crois. Donc ça, c'est une petite avancée pour Bambouti. Je crois que si la deuxième tranche sera octroyée, certainement, on va aller avec le peu jusqu'à arriver à Bambouti pour faire ce dégagement. Mon souhait, c'est quoi? C'est qu'il faudra que le véhicule arrive du Sud-Soudan pour que cette population-là, qui souffre là, ait quand même une possibilité de vivre comme les autres. Donc mon souhait, c'est de ne pas regarder ma population en train de souffrir. Non, c'est pourquoi je fais des déplacements en moto jusqu'à Bambouti, parfois discuter. Je crois qu'avec le droit de l'homme, on a fait plusieurs déplacements, jusque même au Sud-Soudan, à Tamboura, pour discuter sur le sujet sécuritaire s'agissant de nos commerçants. Donc le gouvernement ne baisse pas les bras par le biais du préfet. Je crois que mon souci, c'est de voir ma population vaquer bien à ses occupations.
Ok, connecté aujourd'hui la ville de Obo et d'autres villes pour essayer de baisser l'inflation. Honorable Ernest Mizedio, quelle est votre vision pour essayer de baisser aujourd'hui l'inflation qui mine aujourd'hui le pouvoir d'achat de la population?
Oui, merci Jean-Carnat. En fait, la situation est simple et aussi compliquée. Parce qu'en fait, tout se résume à l'état de la route. Si à la route, comme vous le savez, là où il y a la route, le développement suit. S'il y a la route, ce qui est sûr, c'est que nous allons à Obo recevoir un peu plus de denrées, un peu plus de produits de première nécessité, parce que les véhicules vont circuler, les gros camions vont pouvoir accéder. Et quand on parle de route, il y a un aspect qu'on oublie généralement. Ce n'est pas seulement la route en tant que telle, il y a aussi les ouvrages. Il y a également les bacs, etc., qu'il faut remplacer par des ponts. Je crois que le Hombomo est peut-être l'une des dernières préfectures où pour accéder, il faut passer par des bacs et dans des conditions compliquées parce que c'est des bacs qui sont en très, très mauvais état. Alors, donc, il va falloir que cet aspect des choses soit pris en compte. Il faut que la route soit réhabilitée. Une fois que la route est réhabilitée, vous comprenez avec moi que les gros camions vont accéder facilement. Et si les camions accèdent, nous pouvons facilement avoir des produits de première nécessité. Et quand je parle de route, il n'y a pas seulement la route Bangui-Obo. On peut réhabiliter, par exemple, la route Obo-Bambouti. Si on réhabilite la route Obo-Bambouti, ça fait seulement 110 km. À partir de là, nous pouvons accéder aux produits qui viennent, par exemple, du Sud-Soudan ou bien de l'Ouganda. Là aussi, ça peut permettre de ravitailler la ville d'Obo, en particulier du Hombomo en général, et faire baisser un peu les prix des produits que nous importons.
Merci, monsieur Ernest. Madame Monique Nana, comment vous voyez aujourd'hui le plan pour essayer de baisser le prix des denrées qui sont en hausse aujourd'hui dans le Mbomou?
Je pense que les prix là, c'est la route. S'il n'y a pas de route, ça ne peut pas baisser. Il faut réhabiliter la route de Bangui, Oubou, Bangui, Bambouti, comme disent les autres. Et puis aussi la cohésion sociale. Il faut que la cohésion sociale soit là. Tout le monde vient ici pour vendre. Là, on va trouver des baisses hausses. Sinon, ça ne peut pas le faire.
Ok. La cohésion sociale comme une réponse à l'inflation qui aujourd'hui mine le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous en dites, M. Sanessas?
La cohésion sociale, c'est un aspect que le gouvernement, les ONG internationales, nos bailleurs qui nous accompagnent, la République centrafricaine, militent pour qu'on retrouve ces cohésions sociales qui a longtemps été absente dans la ville de Obo, dans le Mbomou. C'est dû à quoi? C'est UPC qui a créé et nous sommes en train pour le moment de travailler. Les organisations se sont reconstituées, la société civile travaille en amont avec le gouvernement, avec toutes les institutions ici sur place à Obo pour essayer de retrouver cette cohésion sociale-là pour que au moins celui qui est à Mboki, hein, parfois il y a des savons qui se vendent en Mboki à 300 francs, mais à Obo ça se vend à 500 francs. Donc s'il y avait la libre circulation, s'il n'y avait pas la présence des UPC, je pense que toutes ces choses-là devraient être abordables à Obo. Pour trouver à Obo, on ne devrait même pas chercher de midi à 14h pour trouver des petits morceaux de savon. Mais comme l'insécurité est là, et ceux qui constituent l'insécurité dans la zone sont là, c'est pourquoi il faut qu'ils ont manifesté leur volonté de se désarmer. Donc, il y aura la cohésion sociale. On est en train de travailler. La radio travaille, le gouvernement, toutes les équipes sur place. Personne n'exclut personne à Obo. Donc, c'est juste question de volonté.
C'est sur ce mot que prend fin notre émission en version française. Nous avons parlé aujourd'hui du Mbomou et ses défis. Et pour en débattre, nous avons reçu monsieur le préfet Jude Ngayakon, c'est un colonel de l'armée. Monsieur le préfet, je vous remercie.
Et je vous remercie.
Nous avons aussi reçu depuis Bangui l'honorable député Ernest Misedjo de l'URCA. Monsieur Ernest Misedjo, je vous remercie.
C'est moi qui te remercie, Jean-Fernand.
Nous avons autour du plateau avec nous Madame Monique Nana. Elle est la présidente de l'EFCA. Madame Monique Nana, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste.
Nous avons monsieur Stanislas qui est aussi de la société civile. Monsieur Stanislas, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Gardez votre confort d'écoute. Patara, c'est tout de suite après cette courte pause, la version en langue nationale.